Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 18h30 en universel du lundi 3 septembre 2018. Abdourahmane Dia, la présentation, voici les titres. Sommet Chine-Afrique, Pékin promet 60 milliards de dollars supplémentaires à l'Afrique.
On se rend compte que la Chine ne pose pas tellement de questions. Ce qui l'intéresse, c'est la réalisation de ce projet. En tout cas, par rapport à la coopération traditionnelle, on se rend compte que celle chinoise est encore un peu plus visible.
Manifestation dispersée de militants de la Lucha à Kinshasa. Plusieurs personnes ont été interpellées. L'île Maurice et le Royaume-Uni devant la Cour internationale de justice. Les deux pays se disputent les îles Chagos. Condamnation de deux journalistes à 7 ans de prison en Birmanie. La communauté internationale réagit et condamne. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Bienvenue à tous. Le 7e forum sur la coopération sino-africaine s'est ouvert ce jour à Pékin. Des dirigeants de 53 pays africains y prennent part. Parmi eux, l'Ivoirien Alassane Ouattara, le Sud-Africain Cyril Ramaphosa ou encore le Congolais Denis Sassou Nguesso. Pékin annonce 60 milliards de dollars supplémentaires destinés au développement de l'Afrique. Les précisions avec Irénée Hermanoumbo.
Le forum sur la coopération sino-africaine offre l'occasion au président chinois Xi Jinping de célébrer sa nouvelle route de la soie lancée en 2013, une initiative qui vise à développer la connectivité commerciale entre son pays et le reste du monde en vue de sécuriser ses approvisionnements. Le géant asiatique a investi annuellement plusieurs milliards de dollars en Afrique depuis 2015 dans des infrastructures ou des parcs industriels, des investissements salués par les pays africains qui espèrent ainsi accélérer leur développement économique. Mais ces investissements chinois suscitent des critiques croissantes des Occidentaux qui soulignent l'envolée de l'endettement de certains pays africains au point d'inquiéter le Fonds monétaire international. Ces investissements ne s'accompagnent d'aucune condition politique. La Chine ne s'immisce pas dans les affaires intérieures du continent et ne lui impose pas sa volonté, a déclaré Xi Jinping à l'ouverture des travaux du sommet. Le président de l'Union africaine, Paul Kagame, a accusé de son côté les Occidentaux de vouloir décourager les relations commerciales chino-africaines. Le forum de Pékin doit s'accompagner d'une série de contrats signés entre la Chine et ses partenaires. Le président nigérien Muhammadu Buhari devrait ainsi assister à la signature d'un accord sur les télécommunications financé par un prêt de 328 millions de dollars de la banque chinoise d'import-export Exim selon son cabinet. Xi Jinping s'est par ailleurs entretenu durant le week-end en tête-à-tête avec un grand nombre de chefs d'État comme les présidents béninois Patrice Talon et sénégalais Macky Sall. L'Eswatini, ex-Swaziland, est le seul pays manquant à l'appel au sommet de Pékin.
Et nous reviendrons sur ce sommet entre la Chine et l'Afrique dans notre partie magazine avec un reportage au Niger. En République démocratique du Congo, des militants du mouvement Lutte pour le changement ont été dispersés ou interpellés lors des manifestations contre la machine à voter à moins de 4 mois de la présidentielle. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Une vingtaine de militants de Lucha ont été interpellés par la police devant le siège de la Commission électorale nationale indépendante à Kinshasa. Une forte présence policière était visible aux abords de la CENI. À Goma, la manifestation a été dispersée par les forces de l'ordre. D'après le colonel Job Alissi, commandant de la police de Goma, une vingtaine de jeunes ont été interpellés. « Je n'ai pas autorisé la marche d'aujourd'hui. La police n'a fait que son travail de rétablir l'ordre », a dit de son côté le maire de la capitale du Nord Kivu, Timothée Mouissa Kiense. Le mouvement Lutte pour le changement a appelé à des marches pour exiger l'abandon des machines à voter lors des élections du 23 décembre. Ces machines qui serviront à choisir les candidats et à imprimer les bulletins de vote sont au cœur d'une controverse entre la commission électorale et l'opposition. Jeudi, la CENI a dénoncé ce qu'elle qualifie de débat politique et d'intoxication au sujet des machines à voter et du fichier électoral.
Au Cameroun, un défenseur des droits de l'homme est porté disparu depuis près d'un mois alors qu'il enquêtait dans la région anglophone du Sud-Ouest. Franklin Moha est le président de l'association de défense des droits de l'homme Frontline Fighters for Citizens' Interest, basée à Bamenda, dans le nord-ouest du pays. Sa compagne affirme avoir essayé en vain de lui parler au téléphone. Personne n'est parvenu à lui parler depuis le 6 août dernier, a-t-elle déclaré. Sa famille a indiqué avoir saisi la police. Les autorités camerounaises n'ont pas commenté l'affaire. Les Rwandais ont voté ce lundi pour élire leurs députés. Le Front patriotique rwandais au pouvoir depuis 24 ans. Ses alliés et un parti d'opposition briguent ce lundi 53 des 80 sièges de la Chambre basse du Parlement. Les 27 sièges restants sont réservés aux femmes, aux jeunes et aux handicapés physiques élus par des conseils, des comités et organisations spécifiques. Dans le Parlement sortant, ces 53 sièges sont détenus par le FPR et ses alliés ou des partis soutenant la politique du gouvernement. L'armée nigériane a subi de lourdes pertes après une attaque sur une de ses bases dans le nord-est du Nigeria. Au moins 48 soldats ont perdu la vie dans cette attaque survenue jeudi et attribuée à Boko Haram. Un précédent bilan faisait état de 30 morts. Cela s'est passé à Zari, à la frontière avec le Niger. Le groupe Boko Haram a récemment accentué ses attaques contre l'armée nigériane. Ouverture devant la Cour internationale de justice de la Haye des débats sur les îles Chagos, objet d'un litige entre le Royaume-Uni et l'île Maurice. Les précisions de Timothée Donangmaï.
L'île Maurice revendique sa souveraineté sur cet archipel de 55 îles dont 3 sont habitées. Parmi celles-ci, Diego Garcia qui abrite une base militaire américaine. Le litige date avant l'indépendance de l'île Maurice en 1965. Les dirigeants mauriciens de l'époque affirment avoir cédé, sous la contrainte, la souveraineté de l'archipel au Royaume-Uni lors des pourparlers d'autodétermination. 2000 Chagossiens avaient été expulsés vers l'île Maurice ou les Seychelles et Londres avait versé 3 millions de livres en contrepartie. La manière dont les Chagossiens ont été ensuite traités est honteuse et nous la regrettons vivement, a déclaré ce lundi le député britannique et conseiller juridique du gouvernement Robert Brockland devant la CIJ. Toutefois, Londres a estimé que ce tribunal n'était pas l'endroit adéquat pour régler son différend avec l'île Maurice. La Cour internationale de justice doit entendre les arguments sur ce dossier et émettre un avis consultatif. Le processus prévu sur 4 jours verra la participation de l'Union africaine et de 22 pays, dont le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Allemagne, des pays d'Asie et d'Amérique latine.
En Libye, des combats meurtriers continuent de faire rage en périphérie sud de Tripoli. Après l'échec d'un accord de cessez-le-feu annoncé vendredi, la mission de l'ONU en Libye a invité les différentes parties concernées à une réunion élargie demain mardi pour un dialogue urgent sur la situation sécuritaire à Tripoli. Les combats ont fait au moins 47 morts depuis le 27 août selon un bilan officiel. La France va concentrer son aide sur les pays pauvres et fragiles, essentiellement en Afrique. C'est ce qu'a annoncé ce lundi le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. L'aide française se faisait principalement ces dernières années sous la forme de prêts à destination de pays émergents solvables. Elle va désormais être en partie réorientée vers les pays pauvres et fragiles grâce à un quadruplement des dons qui passeront de 300 millions d'euros à 1,3 milliard l'an prochain, a-t-il dit lors d'une conférence de presse.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les réactions continuent après la condamnation à 7 ans de prison de 2 journalistes birmans de l'agence Reuters. Les États-Unis et l'ONU demandent leur libération. Le point avec Lionel Gaïma.
La condamnation de Wallon et Kiosodo est profondément dérangeante pour tous ceux qui soutiennent la liberté de la presse, a écrit l'ambassade américaine en Birmanie sur son site. De son côté, le représentant de l'ONU en Birmanie a aussitôt déclaré, après le verdict, que les États-Unis continuaient à demander la libération de 2 journalistes. Pour sa part, la France qualifie la condamnation de ces journalistes de sérieuses atteintes à la liberté de la presse et à l'état de droit en Birmanie. Un porte-parole du ministère français des Affaires étrangères a appelé à la libération de 2 journalistes. Les 2 reporters de l'agence de presse, en détention préventive depuis décembre, ont été condamnés ce lundi à 7 ans de prison pour avoir tous les 2 porté atteinte au secret d'État en s'étant procuré, selon l'accusation, des documents relatifs aux opérations des forces de sécurité birmanes dans l'État de l'Arakan. Les 2 journalistes enquêtaient sur un massacre de membres de la minorité musulmane des Rohingyas dans un village. Quelques jours après leur arrestation, l'armée a reconnu que les soldats et des villageois bouddhistes avaient tué de sang-froid des captifs Rohingyas le 2 septembre 2017 et 7 militaires ont été condamnés à 10 ans de prison pour ce massacre.
Le chef de la diplomatie iranienne a rencontré ce lundi son homologue syrien lors d'une visite à Damas. L'Iran est l'un des plus proches alliés du régime d'Assad dans la guerre qui ravage la Syrie depuis plus de 7 ans. Le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, a évoqué la possibilité d'attaque contre des cibles iraniennes en Irak en cas de menace pour la sécurité d'Israël. Nous ferons face à toute menace iranienne, d'où qu'elle vienne. Notre liberté d'action est totale, a-t-il déclaré. Le président philippin Rodrigo Duterte s'est recueilli au mémorial de la Shoah à Jérusalem après avoir rencontré le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. L'opposition israélienne et les défenseurs des droits de l'homme dénoncent la visite de 3 jours de ce dirigeant réputé pour son langage outrancier. Duterte s'était comparé à Hitler en septembre 2016, 3 mois après son investiture, avant de présenter ses excuses. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique à présent, on en parle dans la Minute Éco, présentée ce soir par Eric Menerekiza.
Le sommet Chine-Afrique s'est ouvert aujourd'hui, lundi, à Pékin. La coopération économique est au cœur de l'agenda. Pékin cherche à allonger sa liste toujours plus longue de pays amis, particulièrement dans le nord et l'ouest francophone du continent. Les entreprises publiques chinoises en mal de matières premières ont aussi investi massivement dans des pays comme le Soudan du Sud ou la RDC. Toutefois, les prêts chinois soulèvent des inquiétudes pour la stabilité financière des pays bénéficiaires à cause d'un lourd endettement pour de longues années. Par exemple, la dette publique de Djibouti a explosé de 50% à 85% du produit intérieur brut en l'espace de 2 ans. La tournée africaine de la première ministre britannique Theresa May a permis de conclure 300 millions de livres sterling d'accords d'investissement. Ce financement sera injecté dans plusieurs secteurs et devrait créer plus de 3000 emplois à travers le continent, principalement dans les pays visités, à savoir l'Afrique du Sud, le Kenya et le Nigeria. Cette série d'accords représente la première étape d'une stratégie de conquête du marché africain par Londres. Le président américain Donald Trump a menacé de retirer les États-Unis de l'Organisation mondiale du commerce en cas d'absence de progrès dans les réformes. Pourtant, Washington a contribué à mettre sur pied l'OMC après la Seconde Guerre mondiale. Monsieur Trump a qualifié l'accord portant création de l'organisation du pire accord commercial jamais conclu.
Place à présent au sport avec vous, Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahman, bonsoir à tous.
Alors on démarre par cette question. Quelle opposition en quart de finale des Coupes Interclubs?
Abdourahman, beaucoup de chocs en vue en Ligue des Champions en tout cas. Primeiro Agosto, TP Mazembe. On aura un derby tunisien entre l'Espérance de Tunis et l'Étoile Sportive du Sahel. L'entente sétive d'Algérie fera face au champion en titre le WAC et à la Ligue d'Égypte jouera le Oroya AC. En Coupe CAF, on aura un derby nord-africain entre l'USM Alger et Al Masry. De son côté, l'AS Vita Club affrontera les Marocains de RS Berkane. Le Raja Casablanca tentera de tenir son rang face au Kara de Brazzaville. Enfin, l'affiche entre les surprenants Rwandais de Rayon Sport et les Nigériens de Nimba s'annonce indécise. Les matchs allés se joueront le 16 septembre et les matchs retour une semaine plus tard.
Disqualifié pour le tournoi qualificatif de la CAN des moins de 17 ans, le Bénin contre-attaque.
Oui, Abdourahman, alors qu'il devait débuter ce tournoi qualificatif aujourd'hui même contre la Côte d'Ivoire dans la zone UFOAB, le Bénin a été disqualifié par les contrôles IRM effectués par la CAF. Ces contrôles ont mis en évidence 10 cas de fraude sur l'âge. Parmi les 18 joueurs de l'effectif des écureuils des moins de 17 ans, la Fédération béninoise a réagi via un communiqué soulignant notamment qu'elle entend faire reprendre par le deuxième cabinet d'analyse agréé par la CAF à Niamey un test d'IRM en vue d'une contre-expertise.
Mohamed Salah sur la liste des 3 finalistes pour le titre de meilleur joueur FIFA de l'année.
Sans surprise, Abdou, l'ailier de Liverpool se disputera la couronne face à Cristiano Ronaldo qui a quitté le Real Madrid pour la Juve. Le merengue Luka Modric, élu vendredi dernier meilleur joueur UEFA de l'année. Mo Salah est aussi en lice pour le prix Puskas qui récompense le but de l'année. Dans la catégorie du meilleur entraîneur, ça va se jouer entre l'entraîneur de la Croatie, Zlatko Dalic, finaliste malheureux du mondial russe, Didier Deschamps, champion du monde 2018, 2018 avec la France et Zinedine Zidane, vainqueur du trophée en 2017 et trois fois vainqueur de suite de la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Les lauréats seront désignés le 24 septembre à Londres.
Et un mot rapidement sur Yaya Touré.
Oui, Abdourahmane, libre depuis 8 ans, libre après 8 ans passés à Manchester City, l'international ivoirien a rebondi en terrain connu, l'Olympiakos de la Grèce.
Merci beaucoup Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Diaye toujours en votre compagnie et on passe au dossier du jour. À l'occasion de l'ouverture du 7e forum sino-africain ce jour 3 septembre à Pékin, nous nous intéressons à la coopération entre la Chine et certains pays africains. Comment est-elle vécue et appréciée par les citoyens de ces pays? Au Niger, la Chine est présente dans les infrastructures et l'uranium. C'est un reportage sur place de Abdourazak Idrissa.
Comparé aux autres, c'est une coopération meilleure.
Depuis 1974, date de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, presque tous les grands projets structurants de la capitale nigérienne ont été réalisés par la Chine. Du stade Omnisport de Niamey à l'hôpital général de référence, en passant par les ponts sur le fleuve Niger ou encore les échangeurs et autres routes. C'est aussi avec la Chine que le Niger a débuté l'exploitation de son pétrole à Difa. Les Chinois sont également dans le domaine presque exclusivement français de l'extraction de l'uranium nigérien. Aussi, c'est une entreprise chinoise qui a récemment obtenu le marché de construction du premier barrage hydroélectrique du Niger. En somme, une coopération pragmatique et visible, fortement appréciée par les Nigériens.
Les Chinois viennent travailler avec les réalités du terrain et ils offrent leur technicité et leur expertise pour utiliser ce qu'il y a dans le terroir et au profit et à l'adaptation des populations qui doivent vivre.
Vous savez, les autres pays occidentaux le plus souvent posent des conditionnalités, souvent quand il y a des problèmes au niveau de la gouvernance. Je pense que les Chinois ne sont pas très regardants par rapport à cela. Quand vous êtes dans des difficultés, on vous demande d'aller vers le FMI et la Banque mondiale et ainsi de suite. En cas, dans les projets, la réalisation de projets concret, on se rend compte que la Chine ne pose pas tellement de questions. Ce qui l'intéresse, c'est la réalisation de ce projet. En tout cas, par rapport à la coopération traditionnelle, on se rend compte que celle chinoise est encore un peu plus visible.
Au-delà du pragmatisme et de la visibilité des investissements chinois comme raison de ses fleurs jetées à sa coopération avec le Niger, il y a aussi la souplesse dans le remboursement des prêts contractés, estime Ali Gimba, homme d'affaires, membre de la commission paritaire de la Chambre de commerce du Niger.
Pour nos économies fragiles et qui ont besoin d'investissements directs, on ne peut pas avoir mieux. D'autant plus que ces investissements reposent aussi sur des mécanismes de remboursement sur le long terme. Donc les thèmes et les échéances de remboursement sont suffisamment amples pour nos économies que les capitalistes, les États traditionnels, Europe, ne peuvent pas nous accorder cette facilité-là. Et vu la dégradation des structures financières de nos économies, moi je dis aujourd'hui, la meilleure approche pour l'Afrique, d'une manière générale et pour le Niger, ce sont ces Chinois-là.
Une coopération exemplaire, saluée, mais pas sans reproche, puisque les Chinois, comme les autres, ne sont pas des philanthropes.
La Chine construit un certain nombre d'infrastructures, mais la Chine s'intéresse aussi à notre uranium et à notre pétrole. Il voit de sorte qu'il n'y a pas de coopération, en tout cas sans arrière-pensée.
Si on pense qu'il y a de l'intérêt là-dedans, je pense que cet intérêt-là n'atteint pas l'intérêt de ceux qui donnent et qui viennent récupérer tout ce qu'ils ont donné.
Abdourazak Idrissa, Niamey, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Direction le Tchad, où les populations du 9e arrondissement de la capitale N'Djamena vivent dans les eaux depuis environ un mois. Généralement, c'est en période de crue que les habitants de cette commune subissent les conséquences de cette montée des eaux des fleuves Chari et Logone. Ces populations se disent surprises d'être dans cette situation alors que ces deux fleuves ne connaissent pas encore la période de crue. André Kodmajinga, le correspondant de VOA Afrique sur place, s'est rendu dans cette localité. Voici son reportage.
Nous sommes au quartier Ngangali, section 1 et 2, situé à une dizaine de kilomètres dans la commune du 9e arrondissement municipal de la ville de N'Djamena. Ce quartier est envahi par l'eau il y a environ un mois. Plusieurs maisons sont écroulées faisant des sans-abri et des blessés. Ceux qui ne savent où aller sont obligés de passer leur nuit dans ces habitations fortement humides avec tous les risques de santé que cela comporte. Interrogés par VOA Afrique, quelques habitants ignorent l'origine de cette inondation.
La source de l'eau, la même, on ne connaît pas. Notre carré est ce qu'on bafond d'eau. Donc l'eau vient de tous côtés. On a rempli les sacs avec du sable pour mettre ça à l'intérieur, mettre le matelas. Parce que en bas, tout est mouillé.
On souffre beaucoup avec mes enfants. Avant, faire le marché, d'abord, on va venir manger. Mais maintenant, l'eau nous a bloqué comme ça. Les maladies, là-même, ça nous menace beaucoup. Notre enfant, là, c'est tout, le palais. On souffre les diarrhées, tout ça comme ça.
Franchement, nous sommes devenus des crapauds. J'ai un voisin du nom Samson. Sa maison était cassée deux fois. Et si ce n'était pas par la grâce de Dieu, il aurait parti avec tous ses enfants. Il avait eu des blessures sur sa tête.
Pour le géologue Dr Djemadoum Nambatingar, c'est le changement climatique et la culture du riz sur le passage des eaux qui seraient à l'origine de cette inondation.
Il y a un an, deux ans, des gens ont remarqué que le terrain est très riche en culture de riz. Donc maintenant, cette année, tout le monde presque s'est mis derrière là à improviser les rizicoles. Peut-être qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font parce que ça provoque en amont une sorte de bassin de rétention. Même cet été-là, en Europe, c'est une chaleur insupportable. Ça a été prévu il y a 10 ans déjà qu'on va rentrer dans ces cycles de ces changements climatiques. C'est là. Donc N'Djamena doit faire attention.
Le maire de la commune du 9e arrondissement municipal de N'Djamena, Mohamed Kérima Salé, se dit lui aussi surpris de voir sa population dans cette situation désastreuse.
Les gens ont reçu des terrains d'une manière traditionnelle et ils ont commencé à construire sans un plan d'aménagement. Nous sommes dans une commune semi-rurale, donc on ne peut pas faire tout à la fois. Mais c'est un problème qui est arrivé subitement. C'est à partir de ce moment qu'on va mettre une équipe sur place pour faire le recensement. Combien de personnes qui se trouvent dans l'eau? Nous allons chercher un espace, on va le mettre en attendant qu'il y ait une solution définitive.
Paradoxal que cela paraisse, c'est depuis un mois que cette population vit dans le désarroi sous le nez des autorités qui veulent faire de N'Djamena la vitrine de l'Afrique centrale. Mais aucune institution étatique, notamment le ministère en charge de l'action sociale, moins encore les ONG œuvrant dans le domaine humanitaire, ne se sont manifestées. André Koldmadingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena. C'est 93.1 FM au Tchad.
C'est la rentrée des classes ce lundi en République démocratique du Congo. Et dans le sud Kivu, c'est une période difficile pour les enseignants et les parents. Si les élèves sont contents de retrouver leurs camarades, les parents, eux, se plaignent de la cherté des fournitures dans un contexte de crise. Ernest Mouero à Bukavu.
Dans plusieurs familles, les enfants de l'école primaire et secondaire sont très excités à l'idée de reprendre le chemin de l'école, mais ils ne connaissent pas combien ces moments préoccupent au plus haut point leurs parents, affirme maître Jean-Claude Mirindi.
À l'heure où je vous parle, je n'ai pas encore pu réunir tous les fournitures scolaires pour mes enfants. Et je dois dire que la majorité de parents aujourd'hui sont dans cette même situation. Au-delà de fournitures scolaires, nous avons encore affaire à l'éternelle question de prise en charge des enseignants par les parents.
L'entrée des classes est aussi un moment de stress pour les enseignants. Jacques Chirimwami est secrétaire provincial du syndicat des écoles conventionnées catholiques au Sud Kivu.
Nous partons enseigner bien sûr ce lundi, mais nous allons plus enseigner les enfants des autres qui ont des moyens que nos propres enfants. Parce que nous étions en assemblée générale des enseignants. La plupart de nous n'a pas jusque-là payé les fournitures scolaires par manque de moyens. Les écoles aujourd'hui exigent les frais d'inscription. Aucun enseignant n'est capable de trouver cette somme pendant la période des vacances.
En cette période, les marchés sont très achalandés en fournitures scolaires, mais selon la vendeuse Moussimo Zigabe, leurs marchandises s'écoulent à compte-gouttes.
Vraiment, ça ne va pas. Nous manquons les clients. Tous les clients que nous avons, ils commencent à acheter les objets classiques à l'école.
Deo Dialunda, enseignant et syndicaliste, confirme que certains chefs d'établissement ont transformé les écoles en lieu de vente des objets classiques.
Ils appellent les parents qui ont plus l'inscription, ils leur obligent d'acheter les uniformes au sein de ces écoles-là et à un prix élevé par rapport au prix du marché. Mais normalement, l'État doit percevoir des taxes parce que ces écoles sont devenues des magasins, même titre que le magasin qu'on trouve dans la ville de Bukavu.
Fort du constat qu'à chaque rentrée des classes, des centaines de familles n'amènent pas leurs enfants à l'école faute des moyens pour payer leurs études, des voix s'élèvent de plus en plus à Bukavu pour une solidarité en faveur de ces enfants. La fondation d'Avchika et la campagne Une main dans le panier, zéro enfant oublié ou exclu de l'école s'emploient déjà à récolter des dons en faveur de des enfants vulnérables. Rémi Kassindi est l'un des initiateurs de la campagne.
Nous nous sommes dit que nous devons venir en aide à ces enfants. Parmi ces gens, nous allons choisir les plus vulnérables qui vont bénéficier des aides que les ambassadeurs de l'article 43 sont en train de récolter sur le terrain.
L'article 43 de la Constitution congolaise consacre les caractères gratuits et obligatoires de l'enseignement primaire dans les établissements publics en RDC. De Bukavu, Ernest Mouero pour VOA Afrique.
VOA Afrique, 24h sur 24, à Kisangani, en RDC, sur 97.7 FM.
Ici aux États-Unis, comme chaque année, le premier lundi de septembre est célébré la fête du travail, ou Labor Day, comme on l'appelle ici. Le président Donald Trump a dit dans un tweet ce matin que le travailleur aux États-Unis se porte mieux que jamais. Pour une analyse, Eric Manerakiza a joint à Washington l'ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique, Herman Cohen.
Ça dépend. Il y a des bonnes statistiques. Par exemple, le chômage est moins de 4%. Il n'y a pas de précédent pour ça. C'est presque le plein emploi. Ça, c'est une très bonne nouvelle. N'importe quel travailleur qui est en chômage peut trouver un travail. La mauvaise nouvelle, c'est que le croissement de l'économie ne donne pas beaucoup d'argent supplémentaire aux travailleurs. Il paraît que tous les grands bénéfices vont aux actionnaires des sociétés. Les sociétés qui gagnent de l'argent rachètent des actions. Et donc, l'argent passe aux actionnaires. Tandis que les ouvriers n'avancent pas beaucoup. Oh, on peut pas dire plus que la moitié. Non, ça c'était exagéré. Mais il y a un certain nombre de gens, surtout par exemple dans certains états, des enseignants ne gagnent pas beaucoup. Les policiers, les pompiers, etc. Les travailleurs dans l'Amazon, par exemple. C'est vrai. Et à cause de ça, vous avez beaucoup de gens qui ont voté pour M. Trump. Donc, c'est vrai qu'il y a un mécontentement parmi beaucoup d'Américains dans le secteur ouvrier.
Et qu'est-ce qui peut se faire pour qu'un Américain vive mieux avec un seul travail?
Il y a un mouvement maintenant dans le Congrès d'augmenter le SMIC. Maintenant, depuis longtemps, le SMIC américain reste à 7,50 $ par heure. Il y a un mouvement maintenant d'élever ça jusqu'à 15 pendant les prochaines 5 années. Et dans certains états, par exemple l'état de Washington dans le nord-ouest et dans la ville de Washington, la capitale, ils ont fait ça. Donc c'est une solution.
Et sur le droit du travailleur aux États-Unis, est-ce que vous pensez que le travailleur il est mieux protégé ici qu'en Europe ou en Afrique?
Un problème aux États-Unis, c'est que les syndicats sont devenus très faibles depuis les dernières 30 années. Avant, les syndicats pouvaient négocier des très bonnes conditions de travail avec des meilleurs salaires. Mais à cause de l'opposition politique des conservateurs, les syndicats sont assez faibles, sauf peut-être dans l'industrie d'automobile. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est de recruter des ouvriers pour appartenir aux syndicats. Le meilleur exemple, je crois que c'est en Allemagne, où les syndicats ont des représentants dans les conseils d'administration. En Allemagne, vous avez beaucoup moins de difficultés parmi les salariés et les ouvriers.
C'était Herman Cohen, joint ici à Washington.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde de Georges Léonard Sagnon, à la console Wojtek Zorniak, à la présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.